J'ai intitulé ma communication « Qui a créé la communication ?»« Qui a créé la création ?» Et pour ce faire, je voudrais introduire mon propos en trois points préliminaires. Une observation, une question et la réponse à titre hypothétique que je m'efforcerai de défendre et illustrer dans la suite de ma présentation. L'observation, tout d'abord. Si le projet de créer le monde, ou mieux encore de le recréer, pour reprendre l'intitulé de cette manifestation, est aujourd'hui tenu pour un projet important, un projet d'urgente actualité, c'est, me semble-t-il, parce que un certain nombre de grandes figures en ont fait, si je puis dire, leur cheval de bataille. Mais le problème, c'est que ces grandes figures, ce ne sont pas les utopistes dans la filiation de Thomas More, ce ne sont pas non plus, ce sont même encore moins, les penseurs de 1848, de la Commune, ce ne sont pas non plus les activistes de Occupy Wall Street ou de Nuit debout, a fortiori ceux de la gauche prochaine. Ce sont en réalité les Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Uber et autres Airbnb, héros du capitalisme californien, lesquels proclament non pas vouloir changer le monde, mais carrément en faire un nouveau, comme si l'ancien ne pouvait plus être réformé, un monde nouveau et créatif donc, et nouveau parce que créatif. Vous voyez à cet égard comment le moonshot thinking est devenu la religion officielle des laboratoires de Google. Je voudrais toutefois attirer votre attention ici sur le fait que, à eux seuls, ces nouveaux utopistes n'auraient certainement pas été capables ni de forger le projet de recréer le monde, ni a fortiori de se poser eux-mêmes en créateurs de ces mondes nouveaux. En fait, il a fallu qu'ils nous convainquent qu'en réalité, c'est à nous de faire de nous-mêmes des créateurs. D'où cette injonction récurrente qu'exprime dans sa condensation cristalline la campagne publicitaire de Samsung « Be creative », tous créateurs. Et c'est ainsi que se propage cette évidence, évidence problématique, selon laquelle la création serait la chose du monde la mieux partagée. Illusion, sans doute. Néanmoins, ce principe, cette illusion, est aujourd'hui véhiculée dans les références omniprésentes au cluster créatif, à la classe créative, au territoire créatif, à l'économie et bien sûr à la société créative. Or, le problème, et j'en viens à la question que soulève cette injonction créative, le problème donc tient à ce que cette idée d'une création, création du monde ou création d'un monde, n'existe pas de toute éternité. En réalité, la notion de création est une invention d'abord de la philosophie et de l'esthétique, et aujourd'hui, mais sur une toute autre échelle, des sciences sociales. À plus forte raison, l'idée de création artistique a-t-elle une histoire dont, sur ce point, je diverge un petit peu de François Julien, dont le moment inaugural me semble se situer à la Renaissance et pas sous l'Antiquité. Quant à celle de créativité, elle remonte très exactement à la guerre froide. Ce qui veut dire que ces idées de création, création artistique, créateur, créativité, ces idées donc sont des construits intellectuels et sociaux, lestés des contextes économiques, politiques et culturels de leur naissance et de leur développement. Un grand historien d'art a souligné de manière éclairante ce qu'il y a d'incongru dans cette idée moderne de création. Je cite Panofsky, 1955. « Nous, dit Panofsky, nous, hommes du XXe siècle, qui vivons en un monde où prolifèrent les chapeaux créés par Lili Daché, les rouges à lèvres créés par Elena Rubinstein, les cours de création littéraire pour apprentis plumitifs, les écoles qui se targuent d'avant-gardisme en promouvant des périodes de jeux créateurs, nous ne pouvons plus nous rendre compte de ce que signifiait ce transfert à une production humaine du mot même créé, dont saint Thomas assure inlassablement qu'il ne saurait s'appliquer à aucune autre action que celle de Dieu. » Pourquoi Panofsky nous parle-t-il ainsi des chapeaux créés par Lily Daché, des rouges à lèvres d'Elena Rubinstein ou des ateliers d'écriture pour apprentis plumitifs, eh bien, pour nous avertir que ces chapeaux, ces rouges à lèvres et ces ateliers créatifs prennent à contre-pied Saint Thomas, je veux dire, prennent à contre-pied son creatura non potest creare, la créature ne peut pas créer, et que ce faisant, il nous rappelle qu'il est intéressant d'examiner pourquoi cette idée de création, a ainsi récemment été inventée. C'est-à-dire, pour reprendre l'interrogation qui donne son titre à ma communication, qui a créé la création ? À cette question, et c'est le troisième point de mon introduction, j'apporterai une réponse hypothétique. Et c'est cette hypothèse que je défendrai dans les 20 minutes qui me restent. À savoir qu'il aura fallu du temps, beaucoup de temps, mais aussi le concours de bien des intérêts de toutes sortes et des intérêts divergents, pour que cette idée de création émerge et s'impose. Et pour que, de l'impensé de la création, impensé qui est le fait de la plupart des systèmes philosophiques et religieux jusqu'au XVIe siècle, naisse une notion théologico-artistique, et qu'il aura fallu encore beaucoup de temps pour qu'avec les Lumières, cette notion se fasse concept, et pour qu'elle devienne aussi objet scientifique, et pour que ce concept se change en catégorie idéologique, elle-même aujourd'hui candidate au statut de paradigme sociétal. Pour traiter de ces questions, je vous propose trois rapides coups de projecteur. Le premier pour identifier sous quels auspices la notion de création est née et s'est faite concept philosophique. Sur ce point, encore une fois, je divergerai peut-être un peu de ce qui a pu être dit précédemment. Le deuxième pour examiner comment les questions de création sont devenues des objets scientifiques. Et le troisième, qui sera court et conclusif, pour identifier quels intérêts poussent à convertir aujourd'hui la catégorie de création en un paradigme sociétal et par quelles tensions et contradictions ce paradigme est traversé. Premier coup de projecteur, naissance d'une notion. Vous connaissez la phrase de Pascal, « Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. » Et son commentaire par Canguilhem, « Il n'y a d'originalité qu'originelle et il ne peut y avoir qu'une origine, sous-entendu évidemment Dieu. » Eh bien, cette phrase de Pascal porte la marque d'une dévaluation ontologique du plus d'être, Dieu, jusqu'au pas d'être du tout, l'œuvre d'art, d'évaluation qui plonge ses racines dans un lointain passé, puisqu'elle est déjà présente chez Aristote et Platon, pour lesquels l'artiste ne crée rien, mais se contente d'imiter la nature, qui est d'ailleurs elle-même imitation des idées, d'évaluation ontologique qui se retrouve aussi dans un certain nombre de pensées et de systèmes de croyances, par exemple dans les croyances abrahamiques, ou si l'on suit des commentateurs éclairés, je pense par exemple à Scholem, on peut dire, et je cite ici Scholem, qu'il n'est absolument pas évident que les sources bibliques parlent d'une création à partir du néant. Et bien sûr, d'évaluation qui se retrouve aussi dans les pensées orientales. Là-dessus, François Julien a été très explicite. Comment notre modernité a-t-elle donc fait pour rompre avec cette dévaluation ontologique ? Pour cela, il aura fallu que soient remplies trois conditions. Première condition, que Dieu soit tenu pour un artiste, Deus Artifex. Et qu'en tant qu'artiste, il confère un peu, puis la totalité, de sa puissance créatrice, d'abord aux empereurs, aux papes et aux princes, ensuite aux artistes, et enfin à l'homme de la rue. Juste au retour des choses, parce que, comme le dit encore Canguilhem, si la notion de création est descendue du ciel sur la terre, c'est qu'elle était d'abord montée de la terre au ciel. Deuxième condition, il aura fallu qu'il y ait une universalité, non pas universalité du beau, mais universalité de l'idée de beau. C'est-à-dire qu'une idée universelle du beau soit détachée, et là je cite Bourdieu, commentateur de Kant, soit détachée aussi bien de la jouissance raffinée et altruiste de l'homme de cour que de la jouissance brute et grossière du peuple. Ça, c'est le travail de Kant. Travail dont, d'ailleurs, avec un peu de mauvaise foi sociologiste, Bourdieu a pu affirmer que son postulat d'universalité prône la supériorité du jugement de goût bourgeois dans le champ artistique pour conforter la position dominante dont, dans le champ économique, cette même bourgeoisie jouit déjà et que, dans le champ politique, elle est sur le point de conquérir. Troisième condition de cette laïcisation de la création, c'est que le créateur existe en deçà de la création, de sa création. C'est-à-dire qu'avant et davantage que les œuvres elles-mêmes, l'auteur de ces œuvres soit tenu pour un créateur. C'est ici la notion de créativité. C'est ce à quoi les travaux, aussi différents soient-ils par ailleurs, de Bourdieu, Nathalie Hennig, Boltanski et Capello, ont bien montré que le romantisme et la bohème travaillent. Travail fondamental, si l'on veut bien y réfléchir, car il ouvre la voie au grand récit de la créativité, dont les héros sont les grands chefs militaires, pensez à ce que Valéry dit de Vinci comparé à Napoléon, les savants de génie, Poincaré à Bachelard, en passant par Einstein, les capitaines d'industrie et les entrepreneurs, pensez à la destruction créatrice de Schumpeter et pensez à Steve Jobs, bien sûr, et puis finalement les bricoleurs, et la pensée aux pages de Lévi-Strauss ou de Bruno Latour, sur la créativité de la pensée première. La notion de création est donc devenue un concept philosophique et la créativité devient un objet scientifique. J'en viens maintenant à mon deuxième coup de projecteur, cette fois à propos de cette institution en objet scientifique de la création, du créateur et de la créativité. Une remarque préalable pour rappeler que si les questions de création, créateur et créativité sont présentes dans le champ scientifique, aux États-Unis, en France et ailleurs, dès le XIXe siècle, en particulier chez des auteurs par ailleurs aussi différents les uns des autres que Dewey, Galton, William James, Quetelet, en réalité, c'est surtout à partir du moment où, entre les deux guerres, les États-Unis s'assument comme le pays où tout peut s'inventer, où tout doit être conquis et créé. Bref, à partir du moment où les États-Unis se définissent comme le pays de la créativité. Et que ces questions, c'est à partir de ce moment-là que ces questions suscitent l'intérêt des chercheurs et deviennent alors des questions scientifiques. Un moment significatif est à cet égard celui où, en 1940, au sein du Committee for National Moral, anthropologues, psychologues et historiens d'art recommandent au gouvernement états-unien de faire de la vitalité artistique et culturelle, c'est-à-dire de la liberté de créer et de s'exprimer, une arme idéologique contre le fascisme et le nazisme. Sans la référence à cet arrière-fond géopolitique, qui va ensuite évidemment être largement amplifié durant la guerre froide, et qu'on retrouve ensuite très régulièrement à l'occasion de toutes les crises énergétiques, financières, écologiques. Donc sans cette référence-là, on ne comprend pas l'essor prodigieux de la psychologie de la créativité, dont d'ailleurs, je le signale, l'onde de choc se fait sentir jusque dans le succès aujourd'hui des neurosciences. Mais on a aussi du mal, et c'est ce que je voudrais maintenant souligner, on a aussi du mal à appréhender les raisons et les enjeux de la survalorisation actuelle de la création et de la créativité si l'on ne voit pas que c'en est fini de la figure euphémisée, mythifiée et mystificatrice d'un créateur appliquant les traits de la création artistique à des domaines n'ayant rien à voir avec l'art, à savoir l'originalité radicale, la spontanéité, l'affirmation singulière et solitaire d'une personnalité, l'inventivité à contre-courant, éventuellement la rébellion contre l'ordre établi des choses. En réalité, création et créativité sont considérées comme des variables de production, variables productives donc, dont l'influence est censée se mesurer à ses externalités et dépendre elle-même de l'intensité des conditions dans lesquelles elles opèrent. Richard Florida, par ailleurs promoteur très très controversé de la notion très peu sociologique de classe créative, a au moins cette formule éclairante, je le cite, « connaissance et information sont les matériaux de la créativité, l'innovation et son produit. L'un des chantiers sur lesquels aujourd'hui se déploie de la manière la plus flagrante la référence créative, c'est le territoire. Pourquoi le territoire ? Et pourquoi cette idée d'un, entre guillemets, territoire créatif ? Première raison, parce que avant que le territoire ne devienne territoire de la création, c'est le nom que s'est donné la communauté d'agglomération Plaine Commune, Saint-Denis, Épinay, Ville-d'Anneuse, etc., dans laquelle je travaille, avant que le territoire donc ne devienne territoire de la création, il faut qu'il y ait création du territoire. Or, l'idée de territoire est une idée moderne. Trois mutations fondamentales la provoquent. D'abord, le développement avec l'haussmannisme, Haussmann, et même d'ailleurs un peu avant, de ce qui ne s'appelle pas encore politique de la ville, mais qui néanmoins conduit la puissance publique à intervenir, d'ailleurs souvent brutalement, Paris est là pour en témoigner, souvent brutalement sur le paysage urbain. Et ce, au triple motif de l'hygiène, du désengorgement des axes de circulation et du prestige national et international. Ensuite, l'idée de territoire est tributaire des transformations du paysage et de la sociologie rurale. Et ce, sous les effets combinés de la mécanisation de l'agriculture, juste après la Première Guerre mondiale, de l'avènement de l'industrie agroalimentaire, Seconde Guerre mondiale, et de ce que Mindras appellera en 1967 la fin des paysans, c'est-à-dire l'apparition d'agriculteurs producteurs ayant un œil sur les cours du marché et l'autre sur les innovations techniques et d'ailleurs surtout sur les innovations chimiques. Enfin, l'idée de création du territoire est directement liée aux politiques d'aménagement du territoire, lesquelles connaissent leur premier âge d'or dans les années 1960, puis une succession de relances depuis les années 1970, notamment avec, évidemment, les lois de fer. À chaque fois, ce qui est en jeu, c'est l'idée que le territoire n'est pas un donné, comme l'est le terroir, à la rencontre, selon la géographie héritée de Vidal de la Blache, des possibilités offertes par les ressources naturelles et le travail des hommes. Mais que c'est l'idée que le territoire est un construit et qu'il est d'ailleurs aussi un espace vécu, la formule est de, vous le savez, d'Armand Frémont, ou plus exactement que les territoires sont des espaces vécus, très différents d'ailleurs les uns des autres, selon qu'on parle de grandes ou de petites villes, d'espaces périurbains ou d'espaces ruraux, de zones en voie de métropolisation ou de zones en voie de désertification. Mais des territoires qui sont donc des espaces créés et recréés en permanence par leurs habitants. Deuxième raison, deuxième déterminant de la notion de territoire créatif, la territorialisation des politiques industrielles. Alors, il faudrait beaucoup plus de temps que je n'en ai pour rappeler ce que les clusters et pôles de compétitivité d'aujourd'hui doivent à la notion de district industriel, qui, comme certains d'entre vous le savent sans doute, vient de Marshall 1875, l'économiste Marshall 1875. À savoir, l'idée que l'efficacité ne vient pas forcément de la concentration et de la division du travail, mais qu'elle peut aussi venir de la co-localisation de petites unités complémentaires. L'idée aussi que l'atmosphère industrielle, et la formule est de Marshall, crée un marché du travail permanent, formé d'une main-d'œuvre qualifiée, et un milieu favorable à la sédimentation et à la transmission des connaissances spécialisées, des savoir-faire, elle-même source de créativité. Et puis enfin, l'idée que, ainsi organisées, les petites entreprises très spécialisées, plus flexibles, peuvent faire aussi bien, et parfois même mieux, que les grandes entreprises. C'est l'exemple qu'on donne toujours, c'est celui du Nord-Est italien. Et notamment, ces petites entreprises peuvent réagir plus vite, plus rapidement, aux évolutions de la demande. Mais ce que cluster, notion que nous devons à porteurs, ou pôles de compétitivité, ou milieux innovateurs, ajoute aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'importance de l'idée de réseau au service de la circulation des idées et du renouvellement des connaissances dans un contexte qui est marqué en fait par les théories de l'économie du savoir. Et c'est aussi, et c'est pas le moins important, l'idée de rapprocher l'innovation industrielle de l'expérimentation des usages, dans le cadre notamment, mais pas seulement, mais dans le cadre de ce que les Finlandais ont inventé et qui s'appelle aujourd'hui, appellation universellement reconnue, les Living Labs. Living Lab, voilà encore un de ces mondes recréés de toutes pièces où l'on expérimente, selon les cas, la domotique intelligente, la télésanté, les réseaux large bande et toutes sortes d'autres innovations censées préparer et inventer le futur. Enfin, troisième déterminant de la notion de territoire créatif, l'idée du marketing territorial. Ici aussi s'inventent de nouveaux mondes, où l'enjeu, c'est l'attractivité, attractivité territoriale, concept multidimensionnel, c'est Gérardin et Poirot qui disent ça, mais qui concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. Vous voyez par exemple les processus de gentrification et qui renvoie au principe des smart cities et des territoires durables. Je fais ici référence aux travaux de Saskia Sassen. Territoires qui favorisent des capacités d'agir au sens de Amartya Sen. Amartya Sen, l'économiste prix Nobel, grande référence des urbanistes et des aménageurs aujourd'hui. Mais aussi se constituant des territoires qui se constituent comme des marques, des labels, des marques, du branding, en compétition avec d'autres marques sur le marché des subventions publiques et évidemment des localisations industrielles. Les mêmes analyses que celles que je viens d'esquisser sur l'approche territoriale de la créativité et sur la constitution de la créativité comme paradigme sociétal pourraient être appliquées, si nous avions plus de temps, à d'autres chantiers où s'inventent également de nouveaux mondes. Je pense au chantier du travail, notamment référence aux travaux de Pierre-Michel Minger, au chantier du design, comme fluidifiant de l'ensemble des innovations industrielles, au chantier de la mobilité et des transports, au chantier de la santé et encore à beaucoup d'autres. Ce qui ressort de tout cela, et j'en viens à mon dernier point, point conclusif, c'est que l'avènement de la créativité comme paradigme sociétal correspond à trois mouvements corrélés. Premier mouvement, un mouvement de transformation de grande ampleur qui affecte les modes de production des industries culturelles, mouvement porté par ce que certains d'entre nous appellent le modèle du courtage informationnel, c'est-à-dire le modèle qui décrit l'interposition d'acteurs aussi différents par ailleurs que Google, Amazon, Facebook, etc., les GAFA. Donc l'interposition de ces acteurs qui jouent le rôle de courtier entre des producteurs de contenu et des usagers, des consommateurs. Mouvement qui bouleverse évidemment, comme vous le savez, les économies de la presse, de l'édition, de la musique enregistrée, du jeu vidéo. Mais mouvement qui est porteur d'une transformation anthropologique du rapport à la culture et au savoir. Puisque le monde qui s'invente, le monde qui s'invente sous nos yeux, pour le meilleur et pour le pire, et peut-être pour le pire, c'est un monde du sur-mesure, un monde de l'immédiateté de l'accès au savoir, un monde de la délinéarisation des connaissances. Alors certes, ce monde ne se substitue pas aux mondes antérieurs, mais il s'y ajoute, il les concurrence, et logiquement, il entend les dominer, non sans résistance, résistance corporatiste, je dirais, des industriels de l'ancien monde par rapport au nouveau, mais aussi résistance plus fondamentale des citoyens, par exemple, autour de la notion de bien commun. Deuxième mouvement, ce nouveau modèle d'accès à la culture ne se contente pas de coloniser les industries culturelles, il gagne aussi toutes sortes d'autres secteurs, des activités dites créatives, je pense à l'éducation, au spectacle vivant, à l'artisanat d'art, à l'urbanisme, à la publicité. Toutes sortes de secteurs, donc, dont il n'est pas exagéré de dire que ce mouvement contribue à les industrialiser, alors que ce sont des secteurs fondamentalement artisanaux. Et cette industrialisation de ces secteurs, elle passe par les plateformes. À cet égard, un exemple tout à fait typique est celui des plateformes de MOOC, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, et qui, d'une certaine façon, est porteur d'un processus d'ubérisation de l'éducation. Troisième mouvement, mouvement complémentaire et inversé par rapport au mouvement précédent, un mouvement de culturisation de l'industrie, se traduisant par la diffusion dans l'ensemble du monde industriel, par exemple des modes d'organisation du travail, j'ai fait référence tout à l'heure à Pierre-Michel Minger, intermittence, auto-entrepreneuriat, management par projet, autant de modes d'organisation du travail qui jusqu'à maintenant étaient l'apanage du monde de la culture, de la production culturelle, et qui gagnent tous les secteurs, y compris le mode, y compris le monde de la production automobile, de l'industrie automobile. Donc, transformation des modes d'organisation, transformation créative des modes d'organisation du travail, transformation créative également des méthodes de commercialisation, substituant à la concurrence par les prix, la concurrence par la marque à forte charge symbolique. Nike, Apple, etc. Toutes ces firmes jouent sur la valeur immatérielle de leurs produits pour échapper à la concurrence par les prix. Ou encore, bien sûr, ce mouvement se traduit par le recours à des stratégies de financiarisation qui reposent largement sur le storytelling. Apple a, en grande partie, été sauvé par le storytelling de Steve Jobs. Ces trois mouvements, néo-industrialisation des industries culturelles, industrialisation élargie de la création et de la culture, et culturisation de l'industrie, ces trois mouvements, évidemment, ils ne vont pas de soi. Ils rencontrent des résistances et les conflits qu'ils suscitent exigent évidemment de nouvelles régulations qui n'existent pas à l'échelle nationale et plus encore à l'échelle internationale. Mais ils exigent aussi, et c'est ce que je voudrais avoir contribué par cet exposé, ils exigent aussi pour commencer une compréhension aussi approfondie que possible des mutations qui sont à l'œuvre. En débutant ma contribution, j'évoquais ces pionniers californiens qui croient ou font croire que la créativité sauvera le monde. Ce que j'aimerais vous avoir montré, même imparfaitement ou trop rapidement, c'est que la question essentielle, c'est la question inverse. C'est la question de savoir à quelles conditions politiques, économiques, juridiques, sociétales, le monde sauvera la création. C'est-à-dire, pour reprendre une formule de quelqu'un qui est bien oublié maintenant, Ernst Bloch, à quelles conditions l'invention retrouvera-t-elle l'utopie réelle qu'elle avait dans le ventre ? Recréer le monde, en effet, oui, sans doute, mais d'abord et surtout, recréer la création. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. A-t-on le temps de prendre deux questions ? Oui ? Alors, deux questions. Michel.
C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire pour remercier les deux intervenants qui sont encore ici. En écoutant tout ceci, je me disais finalement un thème très très important est peut-être celui du déplacement du thème de la création à un principe qui est passé d'un principe de totale extériorité à la vie sociale. Un deuxième principe, c'est pas une histoire que je propose, mais enfin c'est une façon de distinguer les visions des choses. Un principe de c'est la société qui crée. Un troisième principe qui serait aujourd'hui au cœur des discussions avec toutes les ambivalences qui viennent d'être signalées peut-être. Un principe dans lequel la création, c'est plus du tout que recréer le monde, c'est se recréer soi-même. Autrement dit, le thème du sujet individuel qui traverserait aussi bien les campagnes de publicité des uns, l'action économique des autres, les modes d'organisation du travail, enfin on le retrouve un peu partout. Autrement dit, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que j'ai entendu, qui est qu'aujourd'hui, finalement, on aurait peut-être dû appeler ce colloque, non pas seulement recréer le monde, mais se recréer chacun comme sujet, ou se créer chacun comme sujet. Voilà, donc je voudrais savoir si c'est façon d'entendre ce que vous avez dit est totalement à côté de la plaque, ou partiellement, ou pas du tout.
Moi, je trouve que votre suggestion est extrêmement intéressante. Je ne serais pas forcément d'accord avec vous sur l'importance respective des trois éléments. Je dirais que la création extérieure à la vie sociale, extérieure au monde en quelque sorte, cette création personnifiée par Dieu n'est plus de mise, évidemment. Je dirais que l'idée de se recréer soi-même, c'est en effet ce à quoi nous pousse le discours des industriels dont j'ai parlé. Mais il faut voir que ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est une sorte de survalorisation de l'individu. Cet individualisme méthodique me gêne un peu. Personnellement, j'en resterai, avec votre permission, au deuxième âge, celui de la société qui crée. C'est, me semble-t-il, là l'enjeu d'aujourd'hui. Contre la sacralisation de votre premier âge et contre l'individualisation du second, du troisième, pardon.
Juste un mot peut-être avant que Maurizio réagisse. Peut-être que nous vivons aussi des formules mixtes. Ce que l'on voit en particulier avec l'islamisme radical, est-ce que ce ne serait pas du 1 et du 3, pour le dire comme ça ? C'est-à-dire un principe extérieur porté par des gens qui sont très dans l'individualisme.
Merci. En effet, cette double dimension de l'impulsion à la créativité, je le vois comme quelque chose de typique de notre époque, non seulement comme Be Creative, qui c'est une menace, puisque si tu n'es pas créatif, on va te rejeter. Nous, on ne veut pas ceux qui ne sont pas créatifs. Autrefois, l'idée, c'était la répétitivité. Maintenant, il faut imaginer un Charlie Chaplin qui non seulement fait comme ça, mais en plus, il est créatif. Donc, c'est une requête immense. Même, si vous voulez, cette transformation... je crois que c'est Google qui dit vous pouvez travailler à projet, c'est-à-dire quand vous avez achevé votre projet, vous pouvez partir en vacances. À supposer qu'on puisse vraiment achever un projet et partir en vacances. D'un côté, ce serait la réalisation d'un rêve marxien, c'est-à-dire quelqu'un qui est en même temps la totalité humaine, qui peut faire ceci, et puis regarder le bœuf le soir et la matinée écrire des essais de philosophie et tout ça. De l'autre côté, c'est une forme, disons, non d'exploitation, puisque ce n'est pas une exploitation. Non, puisque les exploités sont contents. Et là, c'est important, c'est-à-dire si l'exploité est satisfait, il faut y réfléchir d'une façon... c'est plutôt montrer comme même certains idéaux humanistes de l'homme comme totalité peuvent être pervertis ou trouver des formes différentes. Par exemple, on a parlé de la constitution du soi dans l'ancienneté tardive, comme l'a raconté Foucault au Collège de France. C'est le type de narrative que, justement, on a parlé, fait la publicité. C'est-à-dire, si tu construis ton corps, si tu achètes ces produits, si tu formes une individualité différente, tu vas devenir quelque chose de spécial. Il y a toujours ce type de promesse de bonheur que je trouve c'est très différente de la narrative publicitaire d'autrefois.
Merci. On regarde fort justement, je crois que les discussions vont continuer entre deux, parce qu'on prendra beaucoup trop de retard. Je vous remercie tous les deux et tous les trois à distance, puisque François-Julien a dû partir. Et merci à vous tous. On va faire une toute petite pause avant de retrouver nos conférenciers qui doivent venir ici. Merci à tous.